Et puis ils comprennent pas quand tu leur dis que c'est pas leur place, qu'ils ont rien à foutre là.
Je suis entièrement d'accord, moi ça me choque. Mmh. Ça me choque. Moi je vois derrière.
T'es choqué?
Non, mais si. C'est...
On y va, on reprend.
Il me tarde que Mathieu nous raconte ce que c'est, comment ça on puisse y aller.
Et ça, moi ça sent bon, ça sent bon. Ah, quand j'étais ouais, petit. Quand bon,
ouais, c'est un plat grand-mère, un plat canaille.
Ouais,
un peu.
Qu'est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce que c'est Mathieu?
Fève cocotte, donc c'est nectaire, jambon pendant de Bigorre. Hein. Un petit mesclun de petite salade du coin. Voilà, tout bon. Simplement.
On est pas
simple
mal.
Et efficace. Hein.
Voilà. Et dans le verre, alors, qu'est-ce qu'on a du coup pour
dans
accompagner
le verre,
ça
du coup, on a mis un vin blanc de cépage qui a presque disparu, qui s'appelle Londinc, qui a disparu au début du XXe siècle, au moment où souvent les raisons de choix, c'était la production et le volume. Et Londinc est un cépage capricieux et un peu difficile, et les gens l'ont abandonné pour aller vers des choses plus simples et qui produisaient sans doute un peu plus. Et aujourd'hui, donc, grâce à un vigneron de Gaillac que la plupart des Tarnais connaissent, qui est Robert Plageol, donc grâce à Robert, Londinc a été sauvé déjà, parce que c'est ce patrimoine génétique là, une fois qu'il est perdu, il est définitivement perdu. Donc grâce à lui et grâce au conservatoire qui est à l'Île-sur-Tarn où on garde les vieux cépages tarnais, donc on a pu sauver ce cépage là et quelques autres.
On va y revenir, hein. Parce que là, je vous arrête plus, j'ai l'impression. Jean-Marc Balaran, domaine de l'Escosse, là, c'est...
Ouais, c'est parti.
Je reviens vers... Non, mais je reviens vers vous. Mais comme j'ai dit il y a quelques instants quand même qu'il fallait qu'on relance cette émission, on la relance. Ça s'appelle un bon client en radio. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite, on est sur le festival Pause Guitare, sur le toit de la scène nationale d'Albi, au restaurant La Part des Anges. Et... au micro, tout de suite, et à la guitare, eh bien, c'est Sean Ferguson.
Et quand le temps prières, au sable, aux pierres de verre. Toi qui guides mes pas, je suis perdu dans le désert et je ne reviendrai pas.
John Ferguson, voix et violoncelle. Ah ouais.
Je trouve qu'il a une très belle voix. C'est dommage qu'il chante pas sur toutes les chansons.
C'est une voix comme il joue. Ouais, mais en même temps, il joue bien de la guitare.
C'est ça. C'est un peu un virtuose, quoi. En même temps, donc des fois, c'est pas mal aussi de pas mettre forcément tout le temps de la voix. On peut aussi réapprendre à écouter des instrumentaux. On n'en fait pas beaucoup en radio des instrumentaux. Tu vois, c'est vraiment des trucs. C'est vrai. Même sur CFM, ça je dois dire, les instrumentaux n'ont pas une grande place dans la playlist. Il nous est même arrivé de couper certains magnifiques morceaux à 3:30, à nous aussi, et j'en suis bien désolé parfois. Mais
comme instrumentiste, j'en suis très conscient.
Il y a un choix à faire à un moment donné, et des fois, ça nous amène à revoir nos positions. Et c'est vrai que Sean fait, joue divinement bien de la guitare, et c'est vrai qu'il y a un choix aussi à faire pour un peu augmenter sa palette et rencontrer aussi le public à travers la chanson.
Mais oui, parce que j'avoue, c'est vraiment une mission pour moi présentement d'intégrer plus de chansons. J'ai envie de le faire. C'est pas juste. Normalement, les gens insistent, puis là, j'aurais fait le contraire, mais là, je le sens dans moi que c'est une forme d'expression qui élargit le truc. Là.
Et du coup, le gars qui est à côté de toi, qui est Karl Houchet, qui est ton producteur, lui, j'imagine qu'il te pousse parce qu'on fait plus de salles et plus de concerts avec de la chanson qu'on en fait, j'imagine, Karl, avec juste de l'instrumentaux. Ça ouvre d'autres marchés, monsieur le producteur.
Moi, je pousse pas Sean. Sean, il s'ouvre tout seul à son projet. Moi, je l'encourage, je l'accompagne avec l'agence Wade à Caraquette, avec Véronique Wade. Et non, ça c'est quand on découvre un artiste comme ça, on a juste envie d'aller dans son sens et puis de lui proposer simplement des choses qui vont dans son projet artistique.
Oui, mais donc quand même, quel est le jusqu'à maintenant, par exemple, sans chant, le style de concert, le style de salle dans lequel tu te produis, Sean, dis-moi.
Alors, en France, en tous les cas, on a déjà, c'est sa troisième tournée.
Ouais.
Donc, on a fait plusieurs festivals, plusieurs lieux, hein, c'est avec à chaque fois des publics très différents. Et la rencontre avec le public, déjà le programmateur, lui, on lui envoie le disque, hein, donc il écoute déjà le projet artistique. Et c'est souvent là-dessus, sur la qualité, que l'artiste est sélectionné. Et après, effectivement, le public se trompe pas, parce que un des premiers concerts qu'il a fait, c'est la première partie des Ouvris Maracas. Donc, il est vraiment à l'opposé total.
Les Ouvris Maracas, c'est un peu la fête et tout ça, quoi.
Et exactement. Donc, le public est arrivé, il y avait des fauteuils dans la salle. Donc là, ils ont commencé à crier au scandale. Et Sean a commencé à jouer. Ils étaient tous à la buvette et puis ils ont commencé à se rassembler dans la salle. Et les Ouvris Maracas, qui étaient dans les loges, sont tous sortis.
Ouais.
Et il a eu 3 rappels et c'était son premier concert.
Ouais. Mais ils sont aussi bons pour ça, les gars de Ouvris Maracas. C'est aussi des gens qui, moi, à chaque fois que je les ai vus sur scène, ils venaient voir aussi la première partie. C'est des gars qui sont d'abord d'un grand respect et tout ça. Quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que des fois... Il faut aller le chercher, le public, quoi, avec un morceau comme ça.
C'est sûr que tu rentres dans un créneau là, comme de la musique instrumentale. Souvent, les gens ne réalisent pas. En fait, c'est plus tu t'aperçois que c'est vraiment la formule de la chanson qui est connue. En tout cas, c'est plus une réalité par chez nous. Je dirais que par ici, je trouve que la plupart des gens dans votre culture, c'est vous avez vraiment les oreilles développées quand même, puis vous êtes habitué d'entendre beaucoup de trucs. Mais par chez nous... C'est la radio qui développe l'écoute. Puis la musique est toujours agencée, soit pour un film, ou de la danse, ou de la poésie. C'est rare que tu aies des moments vraiment de...
Elle accompagne, elle n'est pas seule.
C'est une éducation aussi. Hein. Ça fait partie de l'environnement culturel. Tu sais.
Eh ben, moi, je bois à ta santé, Sean Ferguson. Longue vie à ton projet.
Bravo.
Bravo. Beaucoup de route par chez nous. Bravo. Et donc, on trinque.
Très sympa ce que tu fais. Ouais, merci
beaucoup. On trinque avec un vin de Jean-Marc Bellaran. Pardon. Bellaran. J'écris mal et je ne sais pas me relire. Je suis désolé.
Voilà. Et donc, ce vin-là, donc c'est.
Comment il s'appelle ?
C'est un vin de cépage Jondeng. Donc, on a pensé. On a pensé que souvent à Gaillac, la tradition, c'est de faire de l'assemblage. Et donc, on fait goûter aux gens qui goûtent des Gaillac nos cépages. Donc, on leur parle des cépages en permanence. On leur fait goûter des cépages assemblés.
Ouais.
Et donc, les clients nous disaient, ben, c'est bien, tu nous parles de Duras, tu nous parles de Prunelard ou de Loin de l'Œil. Et jamais on les goûte seul. Et donc, on a sorti un petit coffret qui s'appelle Les Anciens, où on a isolé simplement, avant de faire les assemblages, quelques hectolitres de vin. Et on a mis en bouteille ces cépages tout purs pour les faire goûter tout nus et tels qu'ils sont avant d'être assemblés. Voilà. Donc c'est une idée un peu pédagogique. Et dans mon rêve, les gens prennent les trois bouteilles de cépages blancs ou de cépages rouges, ils les ouvrent en même temps et puis ensuite ils essayent de mélanger.
Ils font leur assemblage à eux.
Donc ça, c'est mon rêve. J'aimerais que les gens utilisent le coffret comme ça et se rendent compte des capacités qu'on a quand on assemble des vins à faire sortir des qualités, à gommer des défauts ou des fois l'inverse. Et c'est vraiment magique. Quoi. Le moment de l'assemblage est un moment magique.
Mais je me trompe, le Gaillacois, comme ça qu'on dit, est une appellation où il y a énormément de cépages qui rentrent pour être dans l'appellation Gaillac.
Oui, on a beaucoup. On a beaucoup. Combien de cépages.
Dans l'appellation, pour avoir un vin sur lequel on marque Gaillac, il faut qu'il y ait combien de cépages dedans ?
Alors, il y a pas de. On peut faire un Gaillac à monocépage.
D'accord.
Je crois.
Ah. Alors, messieurs les vignerons.
Ça arrive. Le décret d'appellation va évoluer. C'est vrai qu'on va avoir le droit de marquer le nom des cépages sur les bouteilles, qui est une demande très très forte, notamment à l'export. Et on va avoir le droit de faire ça sur les blancs et sur les rouges. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, Gaillac était un vin d'assemblage, hein. Des cépages typiques, des cépages anciens, mais un vin d'assemblage.
Combien de cépages ?
Donc, sur les rouges, on a de Procol, Syrah, Prunelard, Duras. Et sur les blancs, Mozac, Loin de l'Œil, Muscadelle.
Ouais, il y a les Cabernets aussi. On a une histoire qui est un peu particulière. On avait perdu notre tradition de qualité dans l'entre-deux-guerres, quoi, dans les années 50. Et donc, dans les années 70, quand les vignerons ont voulu refaire de la qualité, ils sont allés chercher des cépages extérieurs. Donc on est allé chercher des Cabernets, des Syrah, des Sauvignons, des Gamay. Et puis, au fil des années, on s'est rendu compte qu'on ne ferait jamais du Pauillac. Qu'on ferait peut-être pas de l'Ermitage. Et du coup, les vignerons sont revenus vers ce qui était leur tradition. Et on est revenu vers les cépages traditionnels qu'on avait un peu abandonnés parce qu'on souffrait de ce complexe. Le problème des vignerons, c'est qu'on fait un métier où il y a beaucoup d'inertie. Quand on plante une vigne, c'est un peu comme quand on fait un gosse, on en prend pour 30 ans. Je suis désolé.
Il faut le voir comme ça.
Comment il s'appelle, le fiston ?
T'as des auteurs ?
Ah, c'est des filles. Moi, j'ai que des filles. Mais oui, mais qui sont vigneronnes aussi, oui. Non ?
Si elles écoutent la radio, elles vont être contentes.
J'en suis très content. Mais on a énormément d'inertie. Et donc, notre problème aujourd'hui, c'est que quand on se rend compte de quelque chose et quand on cherche à le modifier, ben, avant que le public s'en rende compte, il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées.
Par contre, tout à l'heure... tu parlais, excusez-moi, je ne sais pas ton prénom. Jérôme, tu parlais à l'export, il fallait marquer le cépage sur la bouteille. Donc vous faites beaucoup d'export au niveau de votre...
Malheureusement, pas assez, mais c'est vrai que l'export, on essaie sans cesse de le développer, puisque localement, sur le marché français, les ventes baissent, donc il faut trouver de nouveaux débouchés. Et l'export, en fait, est important. Nous, on fait à peu près 10% à l'export, oui, mais en fait, on investit massivement sur des salons, sur des rencontres, pour développer ces marchés. Sur l'Europe, bien sûr, mais on a un marché particulier pour nous qu'on essaie de développer, c'est les États-Unis, depuis 3 ans maintenant.
La Chine, non ?
La Chine, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont un peu coquins.
Ils aiment le Beaujolais.
Et donc, comme on est une petite appellation et avec des coûts de revient quand même un peu plus importants, c'est compliqué de travailler avec la Chine.
Mais pourtant, il n'y a pas eu là un grand festival des Lumières C'était où ça? C'était passé
à Gaillac. Gaillac.
C'est... Ah ben voilà, à Gaillac. Il y a eu ce truc-là qui doit faire un beau rapprochement, non? Avec
ah, tout à fait. Mais
donc ça doit être une opportunité.
Ils ont consommé le Gaillac sur place, ce qui est déjà pas mal.
Ouais, mais ils vont revenir. Vous allez leur en vendre des wagons. C'était, pour que tout le monde suive de l'autre côté du poste, Jérôme Bézios qui vient de parler du domaine La Croix des Marchands. Et puis, juste avant, c'était Jean-Marc Ballaran du domaine L'Escosse. Nos deux vignerons qui nous régalent aujourd'hui à la table de Mathieu Roux, à la Part des Anges à Albi.
Mathieu Roux.
Mais Roux, ça marche
et qui,
aussi.
Et qui nous raconte ce qu'on vient de manger, c'est sublime.
Ça fait deux, trois fois, hein, mais tu ne suis pas, quoi. Ben c'est Maxime Frézoul, c'est Maxime Frézoul qui l'a fabriqué,
ah,
ça.
D'accord, ok.
C'est ça ?
Voilà, le chef de cuisine, tout à fait. Vous avez dégusté donc 9 cocottes avec ce nectar, du jambon port nord de Bigorre, des petites pousses de jeunes salades du coin. Très simple, très efficace.
Très bon.
Ganaille, un peu gourmand, voilà.
Ah, c'était excellent.
Andreas, est-ce que ça t'a plu ?
Oui.
Bon,
beaucoup.
Messieurs, dames, autour de la table, beaucoup le connaissent déjà. Il s'appelle Andreas Touzé, alias L'Ombre. C'est un jeune rappeur qui a déjà fait beaucoup parler de lui et qui fera très très prochainement la première partie de Big Flo et Oli. Ces deux artistes qu'il considère un petit peu comme les grands frères, si j'ai bien compris, qu'il a rencontré sur déjà une sorte de tremplin ou un prix, dont il nous parlera dans quelques minutes après nous avoir chanté déjà une première chanson. C'est à toi.
J'ai peur de faillir à leurs règles, de ne pas réussir. J'ai peur de pas plaire aux autres et d'être converti. J'ai peur de l'amour qui peut paraître subtil. J'ai peur des menaces envoyées, ça me rend si triste. J'ai peur de décevoir les miens et d'échouer. J'ai peur des victoires comme des défaites, des vengeances engendrées. J'ai peur qu'ils partent bien avant le temps venu. J'ai peur de me retrouver seul au milieu de rien, perdu. J'ai peur de la veille qui a laissé ses mauvaises odeurs. J'ai peur que demain le pire du pire m'accueille. J'ai peur de perdre trop de temps à chercher l'introuvable. J'ai peur de sauter des étapes pour au final, que dalle, que dalle. J'ai peur de l'homme que j'aperçois dans le reflet. J'ai peur de celui qui me suit attentivement pour me voler. J'ai peur du miroir et de son éternelle vérité. J'ai peur d'être naïf et de me faire plumer. J'ai peur des chuchotements de derrière la porte, discret. J'ai peur des cris qu'on entend au loin, indiscret. J'ai peur de l'étranger et du voyage dans l'inconnu. J'ai peur de la monotonie, de l'habitude. J'ai peur du calendrier et de ses dates cochées. J'ai peur du clocher et de son son rouillé. J'ai peur de l'énervement et ensuite des regrets. J'ai peur de la gentillesse si facile à briser. Et alors, hein, mais qu'est-ce que ça te fait que je sois en dur ou en fragile? Personne n'est parfait, hein. Et alors tu vas faire quoi, rigoler? Est-ce que toi tu l'aurais avoué? Et alors, hein, mais qu'est-ce que ça te fait que je sois en dur ou en fragile? Personne n'est parfait, hein. Et alors tu vas faire quoi, rigoler? Est-ce que toi tu l'aurais avoué? J'ai peur de ma voix, de ce qu'elle dévoile. J'ai peur de passer pour quelqu'un de mal. J'ai peur des voix des femmes qui te glissent à l'oreille. J'ai peur des enfants qui grandissent dans les milieux austères. J'ai peur de la haine que les êtres humains se portent entre eux. J'ai peur des gens heureux et ceux qui sont généreux. J'ai peur des secrets qui se forment dans chaque cerveau. J'ai peur de la vérité qui n'est pas exprimée au grand jour. J'ai peur des regards croisés qui veulent dire quelque chose. J'ai peur des bousculades, des types froids, même des types morts. J'ai peur des durs à cuire, prêts à sauter sur tout ce qui bouge. J'ai peur de cette planète Terre, de toutes ces secousses. J'ai peur de leur drogue, de leur fumée toute la journée. J'ai peur de l'alcool qui détruit les hommes en peu de paumée. J'ai peur de moi-même à longueur de journée. Et alors, ouais, j'assume, je suis un peu paumé. Et alors, hein, mais qu'est-ce que ça te fait que je sois en dur ou en fragile? Personne n'est parfait, hein. Et alors tu vas faire quoi, rigoler? Est-ce que toi tu l'aurais avoué? Et alors, hein, mais qu'est-ce que ça te fait que je sois en dur ou en fragile? Personne n'est parfait, hein. Et alors tu vas faire quoi, rigoler? Est-ce que toi tu l'aurais avoué? 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 Non. Et alors, hein, mais qu'est-ce que ça te fait que je sois en dur ou en fragile? Personne n'est parfait, hein. Et alors tu vas faire quoi, rigoler? Est-ce que toi tu l'aurais avoué? Et alors, hein, mais qu'est-ce que ça te fait que je sois en dur ou en fragile? Personne n'est parfait, hein. Et alors tu vas faire quoi, rigoler? Est-ce que toi tu l'aurais avoué?
L'ombre, monsieur Dan, dans Qu'est-ce qu'on déguste sur CFM Radio, c'est son blaze à Andreas Touzé, qui a commencé à écrire quand il avait 12 ans pour essayer de dissiper un peu la colère qu'il a subie lors du divorce de ses parents. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein,
c'est très très juste.
Andreas. Prix d'écriture Claude Nougaro en 2016. C'est là que tu as rencontré Big Flo Oli, ce que je disais tout à l'heure.
Ouais.
Et un premier EP qui est sorti l'année dernière, je crois.
Oui, en novembre dernier.
La sortie s'est faite au club, à Rodez, tu étais à domicile, puisque tu es rue Ténois. Et l'EP s'appelle Au Trouble, c'est
tout
ça
juste. 20 sur 20.
Bon, tu viens en voisin, quoi, de
oui, c'est ça, oui, carrément. Et puis je viens en voisin depuis très longtemps, puisque c'est vrai que c'est un festival que j'ai... Enfin, le festival post-guitare, c'est quand même un festival que j'ai l'habitude de côtoyer déjà depuis... Depuis que j'ai 14, 15 ans.
Comme en fait, festivalier
comme festivalier avec mes parents. J'en ai vu beaucoup, beaucoup d'artistes ici. Ouais. Donc voilà, très
qui
significatif.
Qui t'a vu, qui t'a marqué ici sur le festival?
Il y avait une soirée, si je me rappelle bien, c'était... Il y avait M, Yodelis et Fauve.
C'est ça.
Alors ça, c'était vraiment la soirée.
Grosse soirée, top.
Ouais.
Grosse soirée, ouais.
C'était la soirée qui m'a vraiment le plus marqué.
C'est la soirée,
j'en ai,
ouais.
J'en ai vu vraiment beaucoup, donc il y en a plein qui...
J'imagine que
venir,
voilà, mais... des gens comme Fauve ont dû te marquer dans ton écriture.
En plus, oui. Ouais. Et puis c'est vrai que les voir ici, en plus, alors déjà, je les écoutais beaucoup. Honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre en live, dans le sens où c'est quand même hyper introspectif comme projet, tout ça. Je ne savais pas vraiment ce que ça allait donner en live. Et j'ai été vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bluffé. Et c'est aussi à partir de là que ça a été en tout cas un déclenchement pour ce projet-là aussi, qui est né par la suite en février 2016, grâce à des influences comme Fauve.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas de monter sur scène et de chanter ton écriture?
Ben, c'est clairement en fait le fait d'avoir trouvé, on va dire, le bon équilibre entre ce que j'avais envie de raconter, ce que j'avais envie d'entendre au niveau de la musique aussi. Voilà, j'écris depuis que j'ai l'âge de 12 ans, donc ça fait bientôt 10 ans.
Ouais.
Je suis pas habitué de dire ça, moi.
mais du coup, 10 ans, ça... c'est la moitié c'est d'une vie pour certains.
Et du coup, c'est vrai que voilà, j'écrivais beaucoup. J'avais un autre projet avant qui était beaucoup plus rap, beaucoup plus dans ce qu'on a l'habitude d'entendre.
T'oses la mélodie, là.
Voilà, c'est et là, j'ai trouvé donc du coup entre guillemets, le concept de ce projet-là, et c'est à partir de ce moment-là que ça m'a débloqué pour faire de la scène. À l'époque, j'avais pas forcément envie, je faisais ça dans ma chambre, et j'en avais pas forcément envie, ou je me sentais pas forcément prêt à exprimer ce que j'avais envie de dire sur scène. Et c'est à partir du moment où l'ombre est née que j'ai ressenti le besoin et l'envie réelle de montrer ce projet, ce que j'avais à dire sur scène.
Ceci dit, ce que tu fais, franchement, je trouve que c'est vraiment très très bien. Et je voulais juste relever une chose, ce qui est incroyable, j'ai l'impression que tu rentres vraiment dans ta chanson, parce que tu démarres la chanson, tu as les yeux fermés, et toute la chanson, tu as les yeux fermés, et tu rouvres juste tes yeux à la fin de la chanson. C'est,
alors, je sais pas comment.
Tu rentres, j'ai l'impression que tu rentres.
Non, mais parce que là, je pense qu'il avait besoin de concentration.
J'avais besoin de concentration.
L'opération
son,
autour de la table, là,
exactement.
Pas
j'avais
évident.
J'avais besoin de concentration. C'est vrai qu'en live, j'essaie quand même d'être un petit peu plus expressif que ça. Je m'en excuse.
Non, mais c'est très bien ce que tu fais, en tout cas. C'est très bien.
Mais voilà.
Moi, je voudrais juste rajouter que Andreas, c'est Pic d'Or à Tarbes.
Ouais.
Et c'est quand même une très, très, très belle distinction. Pour moi, c'est certainement un des plus beaux concours de la chanson. Moi, perso, ça a été vraiment un énorme, énorme coup de cœur. Et je crois qu'il ne s'imagine pas une seule seconde ce que je pense de son avenir.
Ouais.
Qui, mon avis, est énorme. Et,
tu penses qu'il va déjà commencer à l'entrevoir le 10 août quand il va être en première partie de Big Flo et Oli, devant 4000 personnes.
Voilà, mais je crois effectivement des scènes comme il va affronter effectivement à Saint-Géniès devant 4 ou 5000 personnes, il en est tout à fait capable et je crois que réellement il y a en lui tout le potentiel pour un jour se retrouver lui-même devant 4 ou 5000 personnes. J'en suis mais vraiment convaincu.
Tu fais plaisir,
que
ça,
c'est
non
ça qui
ben, tu vois, coup, moi hein, qui suis pas un assidu du rap, ben là, tu vois, j'ai vraiment accroché. Ça
va moi, je suis vraiment convaincu que je retrouverai Andreas. J'en suis persuadé sur la grosse scène de Prodcrossal l'un de ces jours.
Mais je ne sais pas d'ailleurs si ça s'appelle. Je sais pas si ça s'appelle encore du rap ce que tu non. fais.
Mais disons que alors quand j'ai moyen de ne pas l'appeler, je l'appelle pas parce que j'aime pas forcément mettre des mots ou classer ma musique dans un coin de dans un style parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup de choses depuis très très longtemps, depuis tout petit en fait, et c'est aussi ce qui a donné naissance à ce projet, c'est que j'avais envie de mélanger pas mal d'influences qui allaient du rock jusqu'au rap en passant par la musique classique, par plein de choses.
C'est la musique qu'on a entendue là, c'est fabrication maison
ou oui,
c'est des samples, c'est quoi?
Comment oui,
c'est
alors il y a du sample et c'est arrangé bien sûr
tu joues
fabrication
avec des musiciens
maison on va dire voilà sur le premier EP en fait j'ai fait les bases en fait des sons et donné les directions artistiques parce que c'est super important pour moi qui n'est pas musicien, je le rappelle, de donner quand même d'avoir cette direction là, de savoir parce que je sais quand même ce que je veux au fond, même si je sais pas vraiment l'exprimer en termes musicaux. Mais voilà, et après j'ai travaillé donc avec un arrangeur voilà qui a travaillé donc sur l'EP. Et pour revenir oui, donc déjà je remercie Alain, merci beaucoup pour ces mots qui me touchent beaucoup. Et du coup voilà, oui, ben voilà,
c'est sur scène il y a des musiciens avec
on
toi
est, on est deux pour l'instant sur scène.
Il y a un guitariste, non?
Exactement, on est deux sur scène. Pour moi, c'était encore une fois très important d'avoir plusieurs influences sur scène et j'avais besoin d'avoir un côté un petit peu rock, entre guillemets. Donc la guitare était pour moi l'élément essentiel. Et puis je suis avec un guitariste qui s'appelle Ray Villot et qui m'accompagne depuis le début du projet, qui a cru en moi même avant que tout ça naisse. Donc c'est vrai que c'est hyper significatif d'être pour moi, d'être sur scène avec lui, quelqu'un de très très bienveillant. Et j'ai besoin de ça, clairement.
Peut-être parler aussi de la danse.
Oui, oui.
Qui accompagne quand même ton projet.
Allez, j'y vais. Hein. Salut.
Oui, du coup, j'enchaîne. Du coup.
Je peux rien faire.
Du coup, c'est là que je suis inspiré. Je suis passionné par les arts du spectacle vivant depuis mon plus jeune âge. Mon père a une compagnie de théâtre amateur sur Odès qui s'appelle le Théâtre des Anneaux. Donc déjà, tout petit, j'étais confronté à voilà avoir des scènes, avoir des étoiles dans les yeux quand je voyais mon père monter sur scène. Il me confiait des fois la régie. Donc voilà, c'était pour moi des super bons moments, des super bons souvenirs. Donc j'ai plongé depuis tout petit dans ce milieu-là. Et ensuite, j'ai fait donc du coup 3 ans de danse.
Ça aide ça sur scène à exploiter la scène quoi,
ouais,
à pas se retrouver tout seul avec son micro.
Ouais,
comme,
beaucoup. Mais pareil, la danse c'est quelque chose qui m'a toujours plu, toujours parlé comme art, comme forme de.
Mais quoi comme danse?
Alors voilà, j'ai fait sur 2 ans, j'ai fait une formation qui s'appelait, qui avait pas de nom d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis qui s'appelait, mais qui mélangeait la danse classique, la danse contemporaine, la danse jazz et la danse hip-hop. Donc ça faisait du 16 heures par semaine par là. Donc c'était un sacré rythme, mais ça m'a beaucoup, 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 beaucoup appris.
C'est bien, c'est les trucs à l'américaine, les entertainers. Ouais, on apprend à la fois à danser, à chanter.
Sa manière de danser parle beaucoup. Ouais. C'est une continuité du texte, hein, je trouve, c'est carrément sublime.
Hein. Et ben voilà. Messieurs, dames, c'est Andreas Touzé, alias L'Ombre. Attention, si vous le cherchez sur Google, c'est ça tous tient, L-O-M-B-R-E. Et vous tomberez peut-être d'ailleurs sur ce drôle de personnage qui vit au bord de l'eau, dans un endroit ensoleillé. Le jour, il s'endort sur un tas d'algues et ne se lève qu'à la nuit tombée. C'est le Pokémon. Exactement. 271. Oui. T'as dû jouer à Pokémon.
J'ai joué, mais alors là, j'ai vraiment pas été inspiré par Pokémon pour créer ce personnage. Et c'est vrai que alors je ne suis pas de ce genre à taper mon nom sur Google. Mais je vous avoue l'avoir fait quand même une fois pour voir sur quoi je tombais. J'ai vu ce Pokémon et je me suis dit mince.
Mince.
Mais c'est pas grave. Je vais essayer d'aller plus loin que ce Pokémon.
Voilà, l'année prochaine, tu seras au-dessus de Pokémon 261.
Tu passes quand sur le festival?
C'est mon objectif.
Il est passé.
Alors je suis passé mardi.
Il est le premier programmé pour 2019, puisque comme il a eu le Pic d'Or, systématiquement le Pic d'Or se retrouve sur le prix Magie de Cherfi l'année suivante.
D'accord, super.
Voilà. La suite de Qu'est-ce qu'on déguste dans quelques minutes avec un deuxième morceau d'ailleurs de L'Ombre. A tout de suite.